Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui savent jouer aux échecs? Ah, c'est bien.
À un moment, j'étais vraiment fou de ça.
Ah, ben c'est super. C'est super. Bon, alors, vous savez donc que c'est un jeu de 64 cases qui sont toutes utilisables, avec des pièces qui ont toute une identité. Hein? Alors, puisqu'il y en a beaucoup qui savent jouer, donc là, j'ai apporté le jeu d'échecs qu'on a à la maison. Donc, moi, j'ai des pièces qui sont jaunes et marron. D'autres jeux d'échecs, c'est blanc et noir. D'autres, c'est doré et argenté. D'autres, ça peut être des couleurs complémentaires comme jaune et bleu, etc. Et donc, puisque tout le monde sait, enfin, beaucoup de gens savent jouer aux échecs, je rappelle le juste pour mémoire. Alors, les pions, hein, les pions, c'est donc ceux-là. Les pions, ils avancent d'abord de deux cases.
Ah non, du premier au début.
Voilà, ils avancent d'abord de deux cases et au tour suivant, ils avancent que de une case. Alors, les cavaliers, qu'est-ce qu'ils font? Le biais
J'appelle
est
ça
tout
L.
droit. Ou alors, tout droit et le biais. Et c'est tout. Après, le fou, qu'est-ce qu'il fait? Le fou, pou, 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 pou. Jusqu'où ils veulent. La tour. Jusqu'où elle peut. La reine, ah, elle a de la chance, la reine. Elle va partout.
C'est ce qu'on n'a pas envie de perdre dans le jeu.
Et le roi, bah, il fait juste un pied. Bon. Voilà, un roi fainéant, on pourrait dire. Mais par contre, si on perd le roi, on perd la bataille. Alors, on peut abandonner, oui, on peut abandonner, mais bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire dans notre vie, j'imagine, en tout cas. Alors, le but du jeu d'échecs, bien sûr, c'est qu'on ait une équipe et que le but, c'est de faire gagner son équipe, de sorte que notre roi règne et que soit vainqueur de l'autre roi. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vous ai parlé du jeu d'échecs comme ça, c'est parce que pour moi, ça représente un concept que j'ai eu longtemps du mal à comprendre. C'est le concept biblique du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Alors, le royaume de Dieu, c'est d'abord un concept théologique qui désigne d'une part une réalité présente. Le royaume de Dieu, il existe. Et d'autre part, une promesse en perspective. Donc, d'abord, le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne. Hein, le royaume de Dieu et l'annonce de sa venue se trouvent dans les évangiles, au cœur même de la prédication de Jésus. Et avec lui s'ouvre la perspective d'un royaume de Dieu dont les hommes sont tous appelés, les hommes et les femmes, sont tous appelés à être membres de ce royaume. C'est la finalité de notre histoire. Le royaume de Dieu, il est annoncé par les miracles de Jésus-Christ, par les différentes paraboles qu'il raconte. Pour mémoire, je vous renvoie au chapitre 11 et au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, mais bien sûr, c'est raconté ailleurs aussi. Et le royaume de Dieu, de toute façon, il existe assurément au ciel, déjà. Il y a de nombreux textes qui en parlent. Moi, je vais vous en citer trois. Psaume 11.4, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Après, le psaume 103.19, il dit: l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dernier passage, Apocalypse 4, verset 2, l'apôtre Jean nous raconte: aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc ça, on est clair, le royaume de Dieu, il existe dans le ciel, il est établi. Ensuite, le royaume de Dieu est le lieu où Dieu est appelé à régner en perspective également. Il est appelé à régner en perspective, dans la perspective de sa victoire définitive sur le diable, sur les forces du mal, même si on ne le voit pas à ce jour. Hein, cela nous est rappelé dans le Notre Père que Jésus-Christ nous a enseigné. Donc Jésus nous enseigne que lorsque nous invoquons notre Père, nous incluons dans les paroles du Notre Père les principes du royaume de Dieu que nous espérons. Il est dit, donc Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10 et la suite, « Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc on a les éléments fondamentaux du royaume de Dieu. Le nom de Dieu sera élevé, sanctifié et respecté. Son règne et la façon dont il gouverne, actuellement au ciel, sera établi et reconnu sans contestation. Et sa volonté sera acceptée et obéie. Donc ce royaume, c'est une perspective, c'est une promesse. Et Dieu, et pardon, Jésus, lapsus révélateur, Jésus le précise. Devant Pilate, après son arrestation, Pilate, il interroge Jésus-Christ. Et Jésus lui répond, c'est dans le chapitre 18 de Jean, versets 36 et 37, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Si je suis né et si je suis venu au monde, c'est pour rendre témoignage de la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Et nous ? Et nous, est-ce qu'on est de la vérité ? Est-ce qu'on est dans la vérité ? Je vous rappelle, toujours dans l'évangile de Jean, c'est vraiment un évangile que j'aime. Chapitre 8, verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, si c'est le cas, si on est dans la vérité, si on est libre dans la vérité, le royaume de Dieu, alors, devient une réalité dans nos vies chrétiens. Ainsi, pour revenir au jeu d'échecs, notre vie est un combat. C'est une bataille. Mais on a un avantage, c'est que ce combat, il est gagné d'avance. Parce que dès que nous acceptons que le Seigneur fasse de notre vie son royaume, cette bataille, elle est gagnée d'avance pour nous. Et la réalité du royaume de Dieu dans nos vies, elle peut se résumer en 5 étapes. Il pourrait y en avoir plus, mais j'en ai trouvé 5. 1. Entrer dans son royaume. Alors, on entre dans le royaume de Dieu par notre conversion. Lorsque nous avons cru en Dieu, nous l'avons accepté comme sauveur, berger, intercesseur de nos prières, mais aussi comme Seigneur et roi, afin que son autorité soit établie en nous. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et Éphésiens 3, chapitre 3, verset 16, 17 « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, nous, hein, que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite en vous, en nous, par la foi. » Deuxième étape, accepter que le royaume de Dieu soit établi en nous et faisant de notre vie un lieu où Dieu règne. Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et l'apôtre Paul rappelle aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Troisième étape, comprendre que celui qui règne dans notre monde actuel, et ce qui s'y passe le démontre d'ailleurs, c'est le diable. Quand on parle du royaume de Dieu, ça veut dire qu'on va parler du diable, du royaume des ténèbres, de toutes ces choses que souvent des chrétiens veulent oublier, parce que c'est pas agréable de se rappeler que le diable existe. Néanmoins, je vous cite deux passages qui en parlent. Alors, au début de l'évangile de Matthieu, il y a la tentation du Christ et le diable. Alors, c'est Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer ». Si le diable lui dit « Je te le donnerai », c'est bien que c'est à lui. C'est bien que le diable règne sur notre monde terrestre. Et l'épître de Jean, la première épître de Jean nous rappelle également, chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Quatrième étape, « Demeurer dans le royaume et vivre comme des citoyens à part entière, en bénéficiant de ses privilèges, en respectant ses règles et en prenant possession de notre héritage. » Combien de personnes, combien de chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont pleinement héritiers de ce que Dieu nous, de ce que Dieu nous donne ? Colossiens chapitre 1, versets 11 et 12. « Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. » Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Cinquième et dernière étape, attendre le royaume à venir. Philippiens chapitre 2, verset 9, Dieu l'a souverainement élevé, on parle de Jésus-Christ, bien sûr. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous imaginez qu'un jour, moi j'ai du mal à imaginer ça, toute langue, les 6 milliards d'individus qui sont sur la terre, toute langue confesseront que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchira. Alors aujourd'hui, Jésus, il règne dans le ciel, ça c'est clair, il est sur le trône de Dieu, là où il a été élevé par le Père lui-même après sa résurrection, par son Esprit Saint, et il règne dans l'Église, et dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. L'apôtre Paul, il est très clair dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9, « Quant à vous, à nous, nous ne sommes pas animés par notre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. » Et je vous rappelle, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ n'est pas venu en nous pour faire de la figuration, mais pour y régner. Pour régner dans notre cœur et pour établir sur nous et en nous le royaume de Dieu. Et on a bien compris, enfin j'espère que j'ai été claire, que le royaume de Dieu, c'est la puissance agissante du Seigneur, parce que c'est lui qui a créé le royaume, qu'il a établi et qui le régit par sa présence, et il se manifeste par le Saint-Esprit. La notion de la Trinité existe quand on parle de royaume de Dieu. Alors, vous allez me dire, ou pas me dire d'ailleurs, vous êtes libre, quel rapport avec le jeu d'échecs ? Je vais vous répondre par deux passages de la Bible qu'on connaît, je pense. Premier passage, c'est dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. D'abord, au chapitre 20, verset 24 à verset 30, Jésus-Christ, il raconte la parabole de la bonne semence et de la mauvaise herbe, ou du bon grain et de l'ivraie, suivant quelle version nous avons. Puis après, il prend le temps de l'expliquer à ses disciples. Donc c'est au verset 36 à 43. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume, nous. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Tout comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes, ou les justifiés plutôt, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voilà une belle bagarre. Qui est gagné d'avance. Mais ferons-nous partie des gagnants? Serons-nous là? Serons-nous les justes? Serons-nous les justifiés? Le royaume de Dieu va s'établir sur le monde dans le temps prévu par Dieu. Et nous avons un rôle à y jouer, en étant et en demeurant cette bonne semence. Et puis un autre passage, c'est Romains chapitre 14, versets 17 à 18. Pour remettre tout en perspective, c'est l'apôtre Paul, dans ce verset, il prend le temps de répondre aux personnes de l'église des Romains, enfin l'église établie à Rome, qui lui pose tout un tas de questions sur est-ce qu'on doit manger de la viande ou est-ce qu'on doit manger des légumes. C'est très, très actuel d'ailleurs en ce moment. Est-ce qu'on doit donner une valeur particulière au jour? Est-ce qu'on doit se comporter certains jours comme ça et certains autres jours comme ça? Et l'apôtre Paul, il renvoie toutes ces personnes en disant « Ce qui compte, ce n'est pas de suivre des règles établies par les hommes, des règles qui sont particulières, qui peuvent être tout à fait honorables, mais de suivre nos convictions. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Donc, le concept du royaume de Dieu, c'est une réalité dans la sphère du monde, en perspective, et c'est une réalité dans la sphère de l'Église. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Sa parole, son autorité, sa puissance doivent être reconnues et acceptées. Et son règne doit pouvoir s'établir en nous et dans l'Église, en toute liberté, ça doit devenir comme une évidence pour nous. Alors, reprenons notre jeu d'échecs. Ne nous y trompons pas, frères et sœurs, nous sommes dans un combat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au cours de notre vie terrestre, on se reposera au ciel, on ne se reposera pas avant. Mais ce que nous allons faire sur terre va contribuer à faire gagner notre équipe. Parce que nous sommes destinés à gagner en tant que bonne semence. Et à faire gagner notre royaume et à faire perdre l'autre royaume. En effet, Éphésiens au chapitre 6, verset 12, Paul nous rappelle « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, contre les êtres humains. » mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc nous avons tous un rôle à jouer dans notre vie terrestre pour battre l'équipe adverse. Mais pour ça, et c'est pour ça que j'en reviens au jeu d'échecs, on doit accepter le rôle que Dieu nous demande de tenir dans l'Église. Peut-être que on est un pion, peut-être qu'on est un roi, une reine, peut-être qu'on est un fou. Mais voilà, Dieu nous a donné un rôle dans notre Église. Et ce rôle, que nous soyons des pions, des tours, des cavaliers, des rois, des reines, on doit le tenir sans jalouser, sans envier celui qui serait supérieur à nous et sans mépriser celui qui est juste un pion. Hein. Nous devons aussi accepter, connaître les cases par lesquelles Dieu veut nous faire passer. Hein, bien sûr, il y a la case de la conversion, la case de la repentance, la case du pardon, la case de la plénitude du Saint-Esprit. Puis il y a toutes les cases qu'on ne choisit pas. Hein, notre date et notre lieu de naissance, notre origine sociale et financière, nos dons artistiques, intellectuels, la vaine manière de vivre héritée de nos pères, comme on dit. Puis il y a les cases qu'on aimerait bien éviter. Hein. La case de la maladie, du chômage, du deuil, d'une catastrophe. Voilà. Mais il faut y passer aussi. Et puis il y a heureusement toutes celles que l'on choisit afin de jouer ensemble, de jouer en équipe, dans l'amour et dans le respect les uns des autres, pour faire gagner notre roi. Et pour terminer, je vous rappelle qui est notre roi et ce qu'il a fait. C'est dans Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. Notre roi, celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres ou des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie. Je vais ranger.